Je suis dans le chapitre 11 de Luc, un passage où Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Et il leur a donné deux paraboles dans ce but. Même si Dieu veut nous écouter et répondre à nos requêtes, il est tout aussi vrai que certaines règles sont à respecter afin d'obtenir une réponse de sa part. Et quelquefois, comme le font les pères terrestres, la réponse est non. Bien sûr, c'est toujours difficile à accepter, mais Dieu sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Il connaît le futur, le commencement et la fin de toute chose. Jésus encourage ses disciples à faire des requêtes avec insistance, sachant que le Père Céleste est bon. Il nous donnera ce dont nous avons le plus besoin pour diriger nos vies compliquées, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le chrétien a besoin de sa présence à ses côtés. Grâce à lui, j'aurai la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions au moment voulu. Quelquefois, c'est par une forte conviction que je me sens guidé. Bien sûr, avant d'aller à Dieu, il faut que je m'assure qu'il est bien mon Père. Sont enfants de Dieu ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, qui l'ont accueilli dans leur vie comme la parole faite chair. Je cite un passage. Certains pourtant ont accueilli la parole, ils ont cru en elle. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Fin de citation. Je continue le texte. Un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Quand le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule était émerveillée. Cependant, quelques-uns parmi les témoins disaient « C'est par le pouvoir de Béelzébul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour lui tendre un piège, lui réclamaient un signe venant du ciel. Versets 14 à 16. Ces quelques-uns qui accusent Jésus d'avoir le pouvoir de Béelzébul sont des chefs religieux venus de Jérusalem pour s'enquérir sur les faits et gestes de ce thaumaturge, ce faiseur de miracles, qui a autorité sur les puissances démoniaques. À l'origine, Béelzébuth signifiait « seigneur des princes », puis, par dérision, il prit le sens de « seigneur des mouches ». En fait, c'est un autre nom pour Satan. Ce qui est sûr, c'est que ces religieux blasphèment le Seigneur, tandis que d'autres, en demandant un signe du ciel, réclament en fait un numéro de cirque à Jésus, ce qui est très outrageant. Je continue. Mais comme il connaissait leurs pensées, il leur dit « Un pays déchiré par la guerre civile est dévasté et les maisons s'y écroulent l'une sur l'autre. Vous prétendez que je chasse les démons par le pouvoir de Béelzébul. Dans ce cas, le royaume de Satan serait divisé contre lui-même. Comment son royaume pourrait-il alors subsister? D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Béelzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Versets 17 à 19. Avec beaucoup de sollicitude, Jésus démontre à ses religieux l'absurdité de leur raisonnement. Premièrement, il serait ridicule que Satan chasse ses propres représentants, car ce serait du suicide. Deuxièmement, leur double norme, deux poids deux mesures, est hypocrite, puisque les disciples des chefs religieux chasse des démons au nom de l'Éternel. Il ne peut qu'en être de même pour Jésus. Je continue. Mais si c'est par la puissance de Dieu que je chasse ces démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité, mais si un autre, plus fort que lui, l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Versets 20 à 22. Par les délivrances qu'il opère, Jésus est la preuve que dès maintenant, le royaume de Dieu est présent et que son instauration se fait au détriment de celui du diable. La situation qu'il décrit est celle d'un conflit entre deux royaumes, Dieu et Satan. L'homme fort et bien armé de cette parabole, c'est Béelzébul. il est le prince des ténèbres. Ses biens sont toutes les personnes qui lui appartiennent sans le savoir, et les démons sont ses agents qui mettent en œuvre son activité diabolique. Par ses exorcismes, Jésus montre qu'il est le plus fort et capable de désarmer le diable. Sa mission n'est pas de coopérer avec Satan, mais de l'affronter et de le vaincre et de délivrer ceux qu'il garde en esclavage. Je continue. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Verset 23. Jésus affirme qu'il est impossible de demeurer neutre dans le combat qu'il oppose à Satan. Les personnes présentes devaient prendre position. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris pour le Christ. Soit on aide le berger à rassembler ses brebis, soit on participe à leur débandade. Je continue. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée, mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Versets 24 à 26. Un possédé délivré n'est pas à l'abri d'un retour à sa condition première et pire encore. Une réforme extérieure où tout est bien rangé et à sa place, que ce soit un nouveau comportement ou une conduite religieuse, c'est bien gentil, mais inefficace. Seule l'acceptation du royaume de Dieu fait échec à celui des ténèbres. Il en est ainsi au niveau individuel où l'homme a besoin d'être régénéré de l'intérieur par le Christ. C'est également vrai pour le peuple d'Israël qui en surface s'était défait des idoles qu'il traînait depuis sa sortie d'Égypte et prétendait obéir à la loi de Moïse. Beaucoup étaient même passés par le baptême de repentance de Jean-Baptiste et suivaient Jésus-Christ pour des raisons diverses. Mais ils l'ont finalement rejeté et leur jugement fut rude. En l'an 70, ils furent détruits par les Romains. La nation cessa d'exister et ce fut le début de la grande diaspora. Je continue. Pendant qu'il parlait ainsi du milieu de la foule, une femme s'écria « Heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité !» Mais Jésus répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent !» Comme la foule grossissait autour de lui, il dit « Les gens de notre temps sont mauvais !» Il réclame un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car, de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi, le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Versets 27 à 30. À l'époque, les liens familiaux étaient plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais pour Jésus, ceux-ci ont peu d'importance par rapport à l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Au lieu de prêter attention à l'enseignement du Christ, les gens voulaient voir des miracles, un signe, quelque chose qui les distrait. Comme ils n'avaient pas la télé, un numéro de cirque aurait été le bienvenu. C'est pour cela que le Seigneur les qualifie de « mauvais ». Ninive fut la capitale de l'Assyrie. Et l'Éternel envoya son prophète Jonas pour y prêcher la repentance. Celui-ci refusa et partit pour l'Espagne. En cours de traversée, il fut jeté par-dessus bord et avalé par un poisson, dans le ventre duquel il demeura 3 jours. Il se repentit et invoqua Dieu qui le fit recracher sur la plage. Finalement, il se rendit à Ninive et sa prédication fut suivie d'un mouvement de deuil national et de profonde contrition. Pareillement à Jonas, Jésus prêche la repentance et lui aussi, suite à sa mort sur la croix, sera 3 jours dans le ventre de la terre avant de ressusciter. Je continue le texte. Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps. « car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Verset 31-32. La reine du Midi avait parcouru un immense trajet pour aller écouter le grand roi Salomon. Mais Jésus lui est infiniment supérieur. En conséquence, les païens qui sont devenus chrétiens jugeront les Israélites au jour du jugement dernier parce qu'ils n'ont pas écouté l'enseignement de Jésus-Christ, leur Messie. Je continue. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous une mesure à grain. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Versets 33-36. Les paraboles sont quelquefois difficiles à comprendre. Ici, les mots-clés ont un sens à la fois littéral et figuratif. La lumière représente le royaume de Dieu et l'enseignement de Jésus. Les ténèbres sont le royaume de Satan, ainsi que le refus d'écouter le Christ ou de le suivre. Les yeux sont ceux du cœur. Avec de bons yeux, on peut se guider. Ils sont comme une lampe dans l'obscurité. La lumière et la vue sont tous deux nécessaires pour se déplacer dans les ténèbres. Ceux qui ne reconnaissaient pas le Messie étaient des aveugles spirituels. Les auditeurs qui avaient écouté Jésus étaient à la fois éclairés et dans l'obligation de partager cette lumière. Par ces paroles, « Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie », Jésus exhorte ceux qui le suivent à mettre en pratique son enseignement et à s'engager sans réserve pour le royaume de Dieu. Je continue. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger chez lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas. Et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fous que vous êtes! Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. » Versets 37 à 41. Jésus se met à table sans suivre le lavage rituel que les religieux avaient inventé. L'hôte en question est en état de choc. Le Seigneur met alors le doigt sur les plaies morales béantes des pharisiens et prononce trois malédictions contre eux. Tout d'abord, il s'en prend à leur cupidité. Ils avaient soif de richesses et dépouillaient les plus faibles. Jésus redéfinit la pureté en termes de relation avec Dieu. La conduite qui est droite provient d'un cœur pur et sans vice. C'est la consécration intérieure qui compte et pas seulement le comportement pieux que tout le monde peut admirer. Je continue. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes comme la menthe et la rue, et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues. Vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Versets 42 à 43. Jésus maudit les religieux à cause de leur hypocrisie et de leur orgueil. Ils ne s'intéressaient pas du tout à la justice et à l'amour de Dieu. Par contre, ils étaient liés au rite de la loi et extrêmement scrupuleux concernant leurs pratiques pieuses, jusqu'à donner au temple le dixième de la valeur des plantes qu'ils cultivaient dans leur jardin. Mais ce n'était que pour l'apparence. En fait, toute leur conduite était régie par le « qu'en dira-t-on ? Suis-je bien vu ? Est-ce qu'on me regarde ? Suis-je admiré ?» Ils cherchaient avant tout la louange et l'hommage du peuple. Je continue. « Malheur à vous ! Vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. » Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » Versets 44 à 45. Marcher sur une tombe, quelle qu'elle soit, rendait rituellement impure. Selon le Christ, les chefs religieux sont par leur vice une cause d'impureté morale pour le peuple. Les mots sont durs et l'affront cinglant, mais tout à fait justifié. Jésus ne cherchait pas à plaire à quiconque et ne craignait personne. Je continue. « Oui, malheur à vous aussi, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous, parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des messagers. Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. » C'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Oui, je vous l'assure, les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » Versets 46 à 52. Jésus s'en prend maintenant à une autre catégorie de religieux. Les scribes, enseignants de la loi. Passés maîtres dans l'art des rituels, ils ne suivaient pas les enseignements moraux de Moïse. Mauvais exemple, ils empêchaient le peuple de recevoir la vraie connaissance de Dieu qui mène à la vie éternelle. Et maintenant, ils faisaient de même vis-à-vis des enseignements du Christ. Jésus enfonce encore le clou et tient des propos particulièrement menaçants contre eux, car il les met dans le même sac que leurs ancêtres qui ont assassiné les prophètes. Je finis le chapitre. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Comme il fallait s'y attendre, après ce grand coup de pied dans la fourmilière religieuse, les saintes nitouches réagissent violemment. Nous voici au chapitre 12 de l'Évangile de Luc. Jésus va d'abord donner un enseignement à ses disciples, puis ensuite aux foules. Je commence à lire. Pendant ce temps, des milliers de gens s'étaient rassemblés au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus commença par s'adresser à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. Versets 1 à 5. Nous sommes à l'apogée du ministère du Christ. Des milliers de gens le suivent et l'écoutent. En premier lieu, il met en garde son cercle d'intimes contre la duplicité des religieux, car éventuellement, que ce soit ici sur terre ou lors du jugement, tout sera révélé. Ce ne sont pas les persécutions qu'il faut craindre, mais l'Éternel Dieu, le juge suprême. Je continue. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux, bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le connaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Versets 6 à 9. Jésus exhorte ses disciples à demeurer confiants en Dieu qui prendra soin d'eux. Mais ils devront faire un choix et malgré l'hostilité des hommes, déclarer publiquement leur foi en lui en tant que Messie. En retour, Jésus témoignera en leur faveur devant le tribunal céleste. Ceux par contre qui ne prendront jamais position pour lui rejetteront par là leur droit à la vie éternelle. Je pourrais ajouter que celui qui a des oreilles entende. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.